I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur Super Laser Punch. On est déjà en avril et c'est déjà le troisième épisode de Falcon and Winter Soldier. Et je dis Super Laser Punch, mais peut-être que cet épisode c'est un petit peu coup de poing.
Moyen laser punch.
Moyen laser. Non, mais même pas. Genre, c'est pas explosif, c'est pas éclatant. C'est juste pichenette. Alors attends, on a pichenette, moyenne et au lieu de laser, un truc qui est lampe de poche moyenne. Pichenette lampe de poche moyenne. Voilà, un truc comme ça. Ça va, Johan ?
Ouais, ça va très bien. La série continue. Moi, je continue à être intéressé. Bon, on va en parler tout de suite.
Oui, on va en parler tout de suite. Je suis Patrick Béja et nous sommes très heureux de vous recevoir pour ce podcast où nous parlons des séries, et essentiellement des séries du Marvel Cinematic Universe. Donc, que ce soit les séries à la entre guillemets télévision ou au cinéma, c'est le podcast qu'il vous faut pour vous tenir au courant de tout ce qu'il faut savoir sur toutes ces émissions et toutes ces productions. Donc, Falcon and Winter Soldier, épisode 1 et 2, on avait plutôt bien aimé, et le seul truc qu'on s'est dit avant de lancer l'enregistrement, c'est « Ouais, celui-là, c'était un peu moyen », et tu m'as dit « Ouais, moi aussi, je l'ai trouvé un peu moyen, n'est-ce pas ?»
Ouais, c'est ça. Après, bon, on va pouvoir détailler un peu, mais c'est vrai que c'est un épisode qui tranche assez radicalement, je trouve, avec les deux premiers, qui étaient avec des rythmes assez lents et des interactions assez intenses avec les personnages, mine de rien, avec des sujets parfois un peu lourds, que ce soit pour leur vie personnelle ou même sur les sujets de société qui sont montrés dedans. Et là, tout à coup, ça fait plus film de super-héros. Là on a des choses un peu plus extravagantes.
Moi, je trouve que ça fait ça fait pas film de super-héros, parce que généralement, un film de super-héros, c'est plutôt cohérent. En tout cas, les productions Marvel sont généralement assez cohérentes et bien construites. Là, j'ai trouvé que c'était au contraire genre mauvais. Enfin, mauvaise série, on retombe au niveau de ce qu'on attend de la télévision, entre guillemets. C'est genre série moyenne, on met des trucs dans l'épisode et puis ça tient plus ou moins. Moi, j'ai trouvé ça pour la première fois. Je vais pas dire que c'est mauvais parce que c'est un petit peu exagéré, mais vraiment, je l'ai trouvé au minimum brouillon et au maximum assez erratique et qui tient pas debout, quoi. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait énormément de choses qui tenaient pas debout. On va plonger dans le cœur du truc. Hein. Je crois que on dit à chaque fois que ce coup-ci, on va faire un épisode plus court. Là, je crois qu'il n'y a même pas énormément à détailler. Et donc, on peut prendre une approche générale de l'épisode et on va parler de tous les éléments qui nous conviennent ou pas. Mais moi, j'ai trouvé que dans l'ensemble, c'était on peut le dire, c'était incohérent, brouillon. Avec, je vais donner quelques exemples, mais la manière dont Zemo s'échappe de la prison, c'est carrément ridicule. Il y a juste un combat entre deux prisonniers, et donc lui, il peut, on ne sait pas d'où il a chopé cette carte pour ouvrir toutes les portes, mais c'est même pas le plus important. S'il suffisait qu'il y ait un combat, il aurait pu s'échapper n'importe quand, mais maintenant peut-être qu'il veut s'échapper parce qu'il y a ce problème de nouveaux super-héros qui arrivent. Après, le personnage de Zemo qui était tellement intéressant dans Civil War, là je l'ai trouvé le baron. Ok, il peut être un baron, mais il a l'air très différent et il est pas. Je pense que c'est une question de manque de temps. Ils vont à Madripoor. Madripoor, c'est intéressant comme localisation. C'est une île qui est très présente dans l'univers de Marvel et en particulier chez les X-Men. Donc c'est un petit peu un petit clin d'œil et l'introduction d'un lieu important. Là, je ne vais pas dire que c'est bâclé, c'est graphiquement assez beau. Les travaux de lumière, les décors, tout ça, c'est sympa. Mais bon, c'est pas non plus incroyable, c'est pas hyper marquant, alors que Madripoor, ça veut dire quelque chose dans les comics. Sharon Carter qui arrive, je fais un peu tout, hein, mais Sharon Carter qui débarque et qui est, alors pour le coup, vraiment complètement transformée. Il y a même certaines personnes qui pensent que c'est elle, le Power Broker, ce qui me paraît un petit peu étrange comme idée, mais pourquoi pas.
J'ai même vu des personnes qui pensent que c'est pas elle du coup, enfin pas elle au sens, ce n'est pas Sharon.
Oui, j'ai vu aussi,
tellement le personnage était différent.
Ouais. C'est vrai que elle est très différente, comme dans Far From Home, il y a les Skrulls qui incarnent Nick Fury et ah zut, comment elle s'appelle? Bref, enfin la seconde de Nick.
Il y a il dans son nom, mais je ne sais plus à quel endroit.
Abigail. Non, mais non, Abigail, c'est la chef de Sword, c'est celle qui a les cheveux verts. Ah bon, j'ai un brain
Bon,
fart. Bref, peut-être que ça serait une Skrull, elle est tellement différente. Et au moins, ça sauve à presque le truc, c'est que Bucky dit: Ah, ok, maintenant t'es devenu complètement horrible en fait, très bien. Et ça, c'est bizarre avec le personnage, mais on peut se dire elle a été abandonnée de tout le monde, mais du coup, si elle a été abandonnée, les super-héros pendant 5 ans, ils ont été un peu vaches de la laisser tomber. Bref, c'est un petit peu étrange. C'est pas que c'est pas des directions intéressantes pour les personnages ou pour l'histoire, mais c'est fait tellement vite que ça tient pas, je trouve. La relation entre Zemo et le Winter Soldier, par exemple, pourrait être hyper intéressante. Est-ce que le Bucky, en fait, la question que pose plus ou moins en demi, enfin, la question qui serait intéressante à poser, c'est: est-ce que le Winter Soldier, c'est une création de Hydra, ou est-ce qu'il y avait un truc dans James Barnes à la base qui était une partie du Winter Soldier et qui est encore là aujourd'hui. C'est intéressant comme idée psychologiquement, comme on l'avait vu dans les premiers épisodes. Mais là, c'est fait tellement vite que ça tient pas du tout, quoi. C'est à peine évoqué et c'est au milieu de toute une bouillie de tout le reste. J'ai trouvé ça, ouais, trop brouillon, quoi. Trop brouillon.
Pour revenir sur la structure de l'épisode, ça, je pense que c'est vraiment un des principaux problèmes, c'est effectivement ce que je disais, c'est qu'on part de deux épisodes qui avaient des rythmes quand même assez posés, avec quasiment une fois une action. Enfin, je veux dire, les épisodes se passent dans deux lieux maximum différents, ou ce genre de. Tu vois, c'est vraiment. Voilà, c'est très stable, en fait. Et là, tout
Ce
à
qui faisait
coup,
l'intérêt de ces épisodes, c'était presque des études psychologiques de
Ouais,
personnages, quoi.
c'est un. Et puis là, tout d'un coup, pouf, on libère Zemo dans un flashback. Moi, j'ai trouvé ça quand même assez sympa, même si c'est effectivement un peu grossier, mais je trouvais l'idée sympa. Et après, en fait, oui, je
Tu veux
suis
dire
riche.
l'idée de la construction du truc quand il raconte et que ça se
Ouais,
passe en même
c'est ça.
temps? Ouais.
En fait,
Oui, ça, c'est sympa.
c'est là où j'allais venir, c'est que du coup, derrière, il est riche, il se téléporte à Madripoor, ils font des trucs, et après, ils se retéléportent. Je sais plus où est-ce qu'ils sont après, en Lettonie, je crois.
Ouais, exactement.
Et alors que justement, moi, cette évasion de prison, il aurait pu faire un épisode complet, en fait, s'ils avaient travaillé le truc, justement, avec Bucky qui raconte et qui raconte pas ce qu'il faut, et puis derrière, on te montre réellement ce qui s'est pu se passer. Enfin, tu vois, pour moi, ça aurait pu être un super gros épisode de justement d'évasion de prison, avec justement tout une emphase sur la relation entre Zemo et Winter Soldier. Et je trouve que c'est dommage d'être passé à côté. Donc là, on a vraiment l'impression que le showrunner, il s'est dit, j'ai pris mon temps pour développer mes deux persos là dans les deux premiers, enfin mes deux, on peut rajouter John Walker quand même dans le lot. Et tout d'un coup, ah zut, il me reste tant d'épisodes, là il faut absolument qu'ils aient fait ça, ça et ça. Et donc ils font ça, ça et ça. Ils vont à Madripoor découvrir le fabricant du sérum. On l'élimine, on apprend qu'il n'y a que 20 doses, comme ça on limite. La conséquence possible de ce truc-là. On apprend tout de suite aussi, on apprend un peu le lien entre ce sérum et puis Carly et les Flag Smashers. Puis
On apprend
après,
aussi
on fait.
le fait que ça vient de Isaiah, le Black
Ouais, voilà, c'est
Captain
ça.
America, le sang d'origine, ouais.
Et en fait, toutes ces informations, on a l'impression qu'elles sont un peu, voilà, information 1, information 2, et tout ça dans des scènes. Alors, il y a quelques moments où ils se font un peu plaisir et où je trouve que ça marche pas forcément. Donc, toute la scène de tension avec Selby, donc la mafieuse, et nos personnages avec le téléphone de Sam qui sonne et ouais. Il doit répondre avec le... Tu vois, ce genre de scène-là où le téléphone sonne et où le mafieux te dit « mets le haut-parleur et parle », enfin... Dans d'autres films, ça serait une tension insoutenable, quoi.
Ouais,
c'était un petit peu, bon, un petit peu ridicule. Et puis, en
c'est,
fait,
c'est un peu ridicule et surtout, ça marche. C'est pas bien écrit, quoi. C'est, tu peux avoir des doubles sous-entendus de ce qu'il dit, de ce qu'elle dit, et que lui, ce qu'il dit fonctionne si sa sœur l'entend, mais qu'en même temps, dans la pièce, ça veut dire autre chose. Et alors que là, en fait, ce qu'il dit, c'est ah ouais, vraiment, je vais vraiment les tuer. Ils seront morts, ces méchants. Ou j'ai plus un truc du genre, ce qui est évidemment, ouais, complètement ridicule. Enfin, ouais, ça m'a fait sourire. Je vais pas dire le contraire, mais
voilà,
concrètement,
mais
c'est pas bien écrit.
Ça sert pas vraiment, voilà, les personnages et la série. Et puis, ouais, pareil pour, c'est un peu bizarre, quoi. Sharon, elle tue tout le monde. Il s'enfuit.
Très badass,
mais, coup,
d'ailleurs,
un...
dans cette scène. Très badass, Sharon Carter. Ouais. Hein, faut pas l'emmerder, clairement.
Bah, je pense que là, la volonté de la réalisation, c'est de montrer qu'elle est devenue, entre guillemets, méchante. Pas méchante, mais en tout cas, elle tue des gens, etc. quoi. Donc, c'est vraiment... elle a vraiment un combat très violent. Elle lance des couteaux. Enfin, c'est quand même...
Ouais,
voilà,
c'était un peu surprenant pour une série Disney. C'est vrai que je ne m'attendais pas forcément à ce qu'on les voit, ils sont tirés dessus, ils se prennent des couteaux. C'est vrai que... C'est clairement, il n'y a pas de place au doute, quoi. Là, c'est méchanceté, méchanceté.
Et puis dans cette scène, tout à coup, Zemo met son masque pour faire une séquence où il est trop fort et machin, ouais. Et puis après, il renlève son masque. Tu vois, ça, typiquement, je ne comprends pas, en fait. Alors, je ne connais pas Zemo en dehors des films Marvel. Je sais à quoi il ressemble dans les comics parce que voilà, j'ai déjà googlé son nom, mais c'est tout. Mais je trouve ça très étrange parce qu'effectivement, ce que tu disais, c'est que c'est un personnage super intéressant de Civil War. Une personne, en fait, qui a été victime de ce qui s'est passé dans Avengers 2, l'ère d'Ultron, et qui, du coup, voilà, a vrillé d'un point de vue idéologique et du coup, se positionne son idéal, il n'est pas déconnant, hein, de se dire non, il ne faut pas qu'il y ait des gens super forts qui se prennent au-dessus des lois, etc. Donc, on peut être d'accord avec l'idéologie. Effectivement, lui, il va plus loin.
Ce qu'il dit sur Captain America et les Avengers et les symboles et comment les symboles peuvent être cooptés pour machin. Bon, tout ça, effectivement, ça peut être intéressant.
Mais par contre, du coup, à côté de ça, le perso, il est un peu vraiment extravagant avec son masque, avec aussi son dialogue un peu caché avec son majordome là, pour se foutre un peu de la tête des deux autres là.
Mais instant sur la scène avec le masque, moi je trouve que ça aurait pu être justement hyper intéressant de voir que Zemo, c'est pas juste un type machiavélique qui lit Machiavel et qui a justement un passé un peu plus sombre, et peut-être que le masque lui rappelle des heures sombres de sa vie où lui faisait des choses qu'il approuve pas forcément ou qu'il était... Mais là en fait c'est juste, encore une fois, parce que j'ai l'impression que c'est fait trop vite, c'est juste « oh je mets le masque, je suis badass et puis je l'enlève » et il n'y a aucune tension psychologique dans le personnage, alors qu'il aurait pu vraiment y en avoir une.
Et du coup, ouais, tu t'as dit brouillon, j'avais pas forcément pensé à ce mot-là, mais effectivement, moi j'ai dû alors j'ai pas re-regardé deux fois, mais j'ai regardé certaines, j'ai dû revoir certaines séquences pour vraiment bien comprendre ce qui se passe. Et il y a plein de séquences en fait où j'ai pas vraiment de réponse. Typiquement, quand ils sont justement avec Selby et où ils neutralisent tout le monde là-haut, quelques secondes après, il y a un contrat sur leur tête à 1000 bitcoins. Hein,
ouais.
Tout le monde reçoit sur leur téléphone. Et tu te dis, mais du coup, c'est qui a... Alors, à moins que ce soit Sharon qui ait lancé le truc juste derrière, mais c'est tu vois, c'est... Dans l'action, ouais, j'étais un petit peu... Bah, en fait, qu'est-ce qui se passe, en fait,
ouais.
Pourquoi ça se passe comme ça? Et c'est valable aussi côté Flag Smasher où du coup, tu essaies de faire le lien avec le scientifique qui a les doses et comment est-ce qu'on a pu en arriver là, et c'est pas évident. Alors, je sais pas si c'est de la confusion, entre guillemets, voulue, dans le sens où on va en apprendre plus après, ou si c'est juste expliqué, mais mal expliqué, et du coup, J'ai l'impression que les gens n'ont pas forcément compris tout ce qui est en train de se jouer. Et j'ai vraiment l'impression que, du coup, pour le coup, cette Madripoor était superflue, quoi. Parce que ce qu'ils y ont fait, c'était vraiment qu'introduire la ville. Parce que ce qu'ils y ont fait, ils auraient pu le faire à Atlanta ou n'importe où, en fait.
Ouais, complètement. Oui. Bon, c'est censé être la ville où il y a aucune loi. C'est genre le repère du crime mondial, ouais. Tu vois. Donc,
et du coup, limite, tu vois, cette ville, on peut pas y aller. Enfin, ils expliquent au début qu'on peut pas y aller n'importe comment. Et d'ailleurs, ils arrivent à pied là, et puis ils se font chercher et puis escorter. Tu dis, mais ce genre de ville, elle fonctionne comment si tu peux pas aller si tu peux pas aller y dépenser tes sous, quoi. Enfin, tu vois,
Bon, à la limite, ça, c'est pas ce qui m'a gêné le plus, moi. C'est, je comprends, mais je trouve que c'est un détail. Mais ce qui m'a vraiment dérangé encore plus, c'est le fait que pour les Flag Smashers, il y avait clairement une histoire plus longue qui était prévue. Et ils l'ont complètement éclipsé, l'histoire de la c'est qui ? C'est la mère de Carly ou, je sais pas, quelqu'un qui meurt.
J'ai l'impression que c'est quelqu'un qu'elle a rencontré. Enfin, tu vois,
peut-être, pareil, mais tu vois, à la fin, quand elle assassine tout le truc, là non plus, ça tient. Enfin, là non plus, il n'y a pas de ressort dramatique parce que c'est, on n'a pas d'attachement au personnage et on n'a pas suivi son parcours suffisamment longtemps pour voir qu'elle glisse parce que ça, j'ai l'impression que c'est censé indiquer que avant, elle était gentille et là, elle glisse vers le terrorisme sale et elle tue des innocents. Mais il n'y a aucune portée, il n'y a aucune force, parce que justement, on n'a pas eu le temps de la voir. Et elle dit pour Donia machin, qui est la femme qui est morte, mais pour Machine, on a l'impression que tu la connaissais un peu et que tu viens de la rencontrer. Enfin, on ne sait pas. Là encore, c'est...
Ouais, ouais. Donc j'espère que c'était, entre guillemets, voulu et qu'on aura plus justement de vision sur ça, parce qu'en l'état, c'est assez pauvre, ouais.
Tu veux dire spécifiquement pour les Flag Smashers ?
Ouais, c'est ça, pour les motivations de Carly et sur ce qu'elle a pu vivre justement avant, en fait. Parce qu'en fait, on ne comprend pas super bien. Moi, j'ai vu pas mal de gens poser les questions sur, ben, en fait, du coup, c'est qui les réfugiés ? Est-ce que les réfugiés, c'est les gens qui sont revenus du blip ? Ou est-ce que c'est des gens qui étaient là et qui ont dû repartir parce que les gens du blip étaient revenus ? Est-ce que, tu vois, enfin, c'est un peu...
J'ai l'impression que c'est un peu bordélique. C'est un peu tout ça. On avait l'impression que c'était genre les gens qui sont réapparus dans un pays où ils n'étaient pas censés être et donc qui doivent être rapatriés, mais... Et puis, ouais, c'est pas très clair. Là encore, je dirais que c'est pas le truc qui me gêne le plus, mais oui, c'est clairement pas très clair, ouais. Clairement,
en fait,
c'est
pas forcément gênant, mais effectivement, vu qu'on a l'impression que c'est important pour les motivations des Flag Smashers, ces histoires de justement de réfugiés, de déportation, de GRC, etc. Et vu qu'on comprend pas bien leurs motivations, on se reporte sur ces éléments de contexte qui eux-mêmes sont flous, et du coup, ça, t'as l'impression qu'il manque quelque chose, quoi. Et d'ailleurs, du coup, moi, je suis revenu, ça m'a refait penser à ces histoires de vaccins. C'est quoi? C'est le deuxième épisode, les vaccins? Oui, c'est le deuxième épisode. Et du coup, a priori, c'était vraiment des vaccins. Ils sont, ils ont déjà les doses, ils ont déjà les 20 doses, et donc c'était. Moi, j'avais pensé qu'effectivement, qu'ils récupéraient les sérums du Power Broker, mais pas du tout.
Oui, on pensait à un moment. Mais voilà. C'est pour ça aussi que le fait que Carly devienne entre guillemets méchante parce qu'elle tue des innocents, on a tellement peu de liens avec ce qu'elle a fait avant, avec qui elle était et son parcours et l'importance de Donia machin qui fait qu'elle bascule, que c'est juste « Ah oui, ok, donc en fait, elle est méchante. » Donc bon. Ouais.
Du coup, il reste à savoir comment est-ce qu'elle s'est procuré ses doses, en fait, du coup, parce que...
Elle était à Madripoor, visiblement, et elle a un contact, il disait, à Madripoor. Ça explique pas, c'est sûr, ouais.
Donc est-ce qu'il y a un personnage qui effectivement lui a donné ce sérum-là, pourquoi faire, etc. Donc il y a encore des choses à élucider. J'espère quand même que ça sera un peu mieux apporté à partir de là, parce qu'effectivement c'était un peu faible cette fois-ci.
Ouais, on va dire ça comme ça. Mais du coup, un autre élément à peut-être mentionner. On a une courte scène avec John Walker qui arrive dans le cybercafé du type qui avait hébergé les Flag Smashers. Bon, c'était... Comment dire ? J'ai trouvé que là, c'était vaguement correct. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est, qu'il a un tempérament nerveux, John Walker, mais c'est pas qu'il pète les plombs direct. Donc il y a un tout petit peu de subtilité là. On sent qu'il pourrait péter les plombs à un moment, mais qu'il l'a pas fait et que bon, c'est peut-être pas, c'est peut-être qu'il va pas le faire. Et c'est encore dans cette idée que c'est pas un super méga méchant non plus. Donc ça, je l'ai
non,
trouvé,
mais on continue, effectivement, on continue de montrer qu'il perd un peu effectivement son sang-froid.
C'est ça.
Pour pas grand chose entre guillemets, parce que bon, enfin.
Il fait un peu penser à. Il me fait un peu penser à comment il s'appelle, à ah merde, 24.
Jack Bauer.
À Jack Bauer. C'est un peu genre, tu poses une question, le terroriste répond pas. L'étape d'après, c'est quoi? C'est que tu poses la même question mais en criant. Tu vois, c'est un peu ce genre de tempérament.
Mais sauf que Jack, il est gentil et il fait ça exprès parce qu'il sait comment on interroge des gens. Enfin, tu vois, il sait comment leur faiblesse psychologique. Mais derrière, de faire par en coulisses, il est zen, tu vois. Alors que là, clairement, il a vraiment perdu son sang-froid. Do you know who I am? En fait, ouais, ce que je m'étais dit, c'était que les gens peu recommandables du MCU, en fait, c'est les héros de Snyder, quoi. Moi, j'ai vu le Batman de Snyder, là, qui s'apprêtait à défoncer un témoin pour savoir ce qui s'est passé, enfin tu vois.
Ouais.
Mais ouais, il est clairement sur la pente. Après, il reste.
Il est clairement, pardon.
Il est clairement sur la pente là. Enfin, ouais. Je pense qu'à chaque épisode, on réinsiste un peu là-dessus. Reste à savoir s'il va continuer jusqu'en bas ou si justement c'est quelque chose qui va se retourner plus tard et que du coup. Parce que du coup, on a du mal à imaginer encore à quoi pourrait ressembler, tu vois, un épisode 6, donc un épisode final. C'est 6, hein, ouais, c'est ça. Ouais, un épisode final, on se demande, c'est quoi le combat final? C'est qu'on ne sait pas encore. Tu vois, il y a les Flag Smashers, il y a le Power Broker, il y a John Walker, donc il y a tout ça qui se met en place. Et voilà, on est quand même un peu dans le suspense de savoir, en fait, comment tout ça va se dégoupiller après, quoi.
Ouais. Comment tout ça va se goupiller. Moi, j'espère que,
oui, goupiller.
que ça va remonter un petit peu la pente, justement, parce que j'étais... Si ça... Enfin, comment ? J'espère que c'est un épisode où ils devaient coller plein d'informations parce qu'ils n'avaient pas assez de temps pour les coller dans les épisodes suivants, parce qu'ils veulent prendre leur temps un petit peu plus dans les épisodes suivants. Si on arrive à... si ça, c'est le template pour la série, le reste de la série, je vais être extrêmement déçu. Et j'irais même jusqu'à dire que, du coup, si ils avaient... Je comprends un petit peu qu'ils n'aient pas voulu commencer avec celle-là. Parce que... Je veux dire qu'ils n'aient pas voulu commencer la diffusion des séries du MCU avec Falcon and Winter Soldier. Si c'est comme ça jusqu'à la fin maintenant, bah, je comprends qu'ils aient voulu mettre WandaVision qui était beaucoup plus intéressant, très différent, au lieu de ce truc qui, là, pour le coup, est petite série d'action un petit peu brouillonne. J'insiste sur le terme brouillon. Bref, donc j'espère que ça ne va pas être comme ça jusqu'à la fin, quoi.
Surtout qu'ils se permettent de rajouter encore un personnage, quoi, avec la Dora Milaje, je sais plus c'est quoi leur nom, du Wakanda,
qui arrive
à la fin.
Oui, c'est vrai qu'on l'a même pas, on l'a même pas mentionné.
C'est très cool, hein. Alors moi, entendre les notes de musique du Wakanda et tout, j'étais, ça m'avait remonté. En fait, ça m'avait un peu sauvé l'épisode. J'étais un petit peu dépité là, machin, et j'ai entendu les percussions et tout ça, et là j'étais super content. Donc je suis ravi de la voir. Par contre, je me dis, mais il rajoute encore un personnage. On vient juste de nous montrer. On a introduit Zemo et Sharon dans cet épisode-là, alors qu'on comprend pas tout à fait encore Carly qui est là depuis le début. On rajoute encore le Wakanda qui s'en mêle. J'ai l'impression que ça. Depuis le début, chaque cliffhanger de fin d'épisode, c'était l'ajout d'un personnage, quoi. À la fin de l'épisode 1, on te rajoute John Walker. À la fin de l'épisode 2, on te rajoute c'était Zemo. Du coup, on le nomme. Et là, on parle de Zemo et de Sharon. Et on te présente encore quelqu'un qui vient du Wakanda.
Ouais.
Donc, c'est assez, c'est assez osé, je trouve, quand même.
Je ne sais pas si tu as vu le mème qui tournait. C'était « Ah, moi, j'aime bien Falcon and the Winter Soldier and Zemo and also Sharon. » C'est pas mal.
J'ai vu ça.
C'était très drôle. C'est bon, oui, j'avoue que Je suis content qu'on entende parler, tu vois, au niveau geek, au niveau fan de Marvel, que le Wakanda soit impliqué. Mais pour la construction de la série, moi, ça m'inquiète beaucoup plus qu'autre chose. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Tu vois, ils vont dire, le White Wolf, il va dire, non, mais attends, fais-moi confiance, il y a encore des super soldats qu'il faut arrêter. Mais non, il faut que Zemo fasse face à la justice. Et s'il ne peut pas faire face à la justice, nous allons le ramener au Wakanda et le mettre face à la justice nous-mêmes. Non, tu ne peux pas. Mais si, je peux. Ah, vite, combat entre nous deux. Tu vois, c'est un peu... Ça m'inquiète un petit peu plus qu'autre chose pour la construction de la série. Et bon, bref. On verra, ça se trouve, ça va remonter la pente à l'épisode suivant. Mais là,
Et puis, j'ai du mal à voir pourquoi Zemo, il est encore utile, en fait, au... Winter Soldier.
Bah, il a un avion, ça leur permet de se déplacer.
Il a un majordome et un avion. mais oui, une fois qu'ils sont revenus de Madripoor, ils n'ont pas su me convaincre qu'il y avait encore besoin. Ils ont voulu en faire quelque chose et puis Bucky a fait non, on en a besoin.
Ouais. Et puis à vrai dire, même le Wakanda, pardon, tu voulais reparler Zemo.
Non, vas-y.
Même le Wakanda, s'ils avaient ramené Okoye, tu vois, à la limite, ok, mais c'est pas Okoye. C'est sa seconde.
Sa seconde.
Qu'on a vu dans les films, mais tu vois, elle était en presque une figurante, tu vois, elle était dans le fond. Et du coup, c'est même pas. C'est encore ces trucs où les séries, c'est pour ramener des. Enfin, c'est un truc de série de, entre guillemets, pas mauvaise qualité, mais de. De séries télé, quoi. De séries télé, comme on a l'habitude d'avoir des séries télé qui sont pas à la hauteur. Tu vois, les séries Netflix, les premières saisons, et dans certains cas, les deuxièmes saisons aussi, étaient vraiment bien. Bien écrites, bien réalisées. Elles prenaient leur temps, elles étaient hyper intéressantes. Et puis, au fur et à mesure, on en a eu qui sont devenues un petit peu genre séries télé. Quand tu vois, pas Wonder Fist, mais Iron Fist, bah, Iron Fist, la série, c'est vraiment... Bon, là, on est carrément un cran en dessous. Mais... C'est un peu ce genre de niveau, je trouve. Et ça me déçoit. Bref.
Après, moi, je suis quand même content, en général, de voir justement ces persos qui sont, en général, pas assez bien mis en avant, parce que c'est des gros films avec moins de temps, etc. Donc ça me gêne pas beaucoup. Mais clairement, ça participe à ce feeling que les séries sont moins que le... que le cinéma, et c'est peut-être vrai tout simplement, c'est peut-être une réalité.
Non, c'est sûr, c'est sûr. Mais la manière dont c'était traité dans les deux premiers épisodes, ça me convenait. C'est juste ce troisième qui me déçoit. Et bon, c'est qu'un épisode, on va voir ce qui se passe dans le suivant, et on sera là, bien sûr, enfin, j'espère, la semaine prochaine pour vous en parler, parce que en fonction de ce qui se passe dans ma famille à moi, avec les, comment dire, pas personnages secondaires, mais les personnages supplémentaires qu'on introduit dans la famille, qui devraient arriver d'un jour à l'autre, là, le deuxième Captain Beja, tu vois, qui va arriver d'une minute à l'autre, bah peut-être que la semaine prochaine, on pourra pas faire de Super Laser Punch. J'espère qu'on pourra, mais peut-être pas.
Bah écoute, on fera au mieux en tout cas, et puis voilà. Je voulais mettre un petit mot pour Black Widow.
Alors j'ai pas vu les trailers, ne me gâche rien, mais vas-y. Dis.
Un nouveau trailer que je n'ai pas regardé.
Très bien.
Mais par contre, ça a été l'occasion pour Marvel France à rappeler sur Twitter que le film sortait au cinéma en France le 7 juillet. Donc, 2 jours avant qu'il soit diffusé sur Disney+, aux États-Unis, je crois. Mais du coup, ça, j'étais persuadé que ça serait Disney+, chez nous aussi. Et en fait, non, donc nous, ça sera bien au cinéma. Donc, ça sera en début juillet. Donc, on espère que ça sera ouvert.
Ouais. Bah, j'espère aussi. T'as vu que le CNC a annoncé qu'ils autorisaient, dans certains cas, la possibilité de sortir, enfin, de faire fi de la chronologie des médias. Donc, peut-être qu'ils feront les deux. Okay. Mais il faut poser une demande au CNC. Donc,
mais ça doit être soumis à, tu sais, conditions de revenus, etc. Enfin, remarque, je sais pas, avec le Covid, peut-être
oui,
ils vont être cool.
C'est encore plus, entre guillemets, cool que ce qu'ils avaient fait l'année dernière. Donc, peut-être que ça sera possible. Moi, j'espère qu'en Finlande, ça sera possible aussi. Il sortira au ciné, j'espère. Visiblement, les choses ont l'air de pas trop mal se passer. Les gens sont semi-confinés depuis quelque temps et ça a l'air de fonctionner. Donc, peut-être peut-être que l'été sera entre guillemets normal, et du coup peut-être qu'on pourra aller au ciné pour voir Black Widow, et puis sinon que ça sera sur Disney Plus ici en Finlande, même si ça l'est pas en France, mais bon, on verra si il est possible de trouver des moyens de moyenner quoi. Dans tous les cas, et on vous en parlera, j'en suis sûr, j'en suis certain.
Oui. Oui, oui, on trouvera un moyen de le faire.
Est-ce que tu as un truc à ajouter sur cet épisode ou sur autre chose? Ou est-ce qu'on conclut après seulement une demi-heure de Super Laser Punch?
Non, je pense qu'il faut profiter de ce répit, de ce petit épisode. et puis, je te souhaite surtout bon courage pour les jours à venir, parce que voilà, c'est...
Merci.
Même on verra c'est le... facile, c'est pas facile.
Ouais. Le premier, il y a 3 ans, avait été retardé d'une dizaine de jours, un petit peu plus. Donc, on ne sait pas si numéro 2 va arriver à l'heure et au jour prévu. On verra. Mais oui, dans tous les cas, on vous tiendra au courant. Et puis, on reviendra pendant mon congé paternité. Le podcast que j'espère pouvoir faire, c'est Super Laser Punch, parce que j'espère avoir le temps de regarder 40 minutes de télé dans la semaine et puis de faire une petite discussion avec mon pote Johan pour geeker ensemble. Mais on verra comment ça se passe. Je te remercie d'avoir partagé cette demi-heure avec moi. Où peut-on te retrouver sur Internet, Johan?
Eh ben, on peut me retrouver sur Internet, sur Twitter, à JohanT_.
Magnifique, le lien vers ton compte Twitter est dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est NotPatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez retrouver les liens vers tout ce que je fais, absolument tout, sur notepatrick.com, y compris les autres podcasts que je produis sur l'actu tech ou l'actu gaming. Je vous fais 2 grosses bises et on vous donne rendez-vous dans une semaine, plus ou moins. Ciao, ciao !